D'accord. Merci d'abord de m'avoir proposé de présenter ce livre. Donc le livre porte sur la production de l'information dans les médias généralistes et spécialisés, la production d'information et de jugement sur la gastronomie. La gastronomie, le flou qui entoure le terme est rappelé au début du livre, mais bon, façon de le définir peut être de dire, bon, comme je cite Sidonie Nolin, que c'est l'alimentation dans sa dimension esthétique et culturelle. Voilà, alors c'est... La production de cette information est assurée par des journalistes, des professionnels qui ont une fonction d'intermédiation marchande entre des producteurs de biens gastronomiques, bon, les restaurateurs par exemple, et des consommateurs de biens gastronomiques. Et le projet du livre, bon, est de contribuer à la compréhension de ces dispositifs d'intermédiation marchande en mettant l'accent sur le travail, enfin sur d'une part enfin, le groupe des journalistes spécialisés et particulièrement sur leur travail. Voilà. Alors, bon, tout ça, enfin, y a un élément qui, je pense, qui est important de mentionner, bon, c'est l'idée que donc, le livre, pour aller vite, bon, c'est son sous-titre, traite du journalisme gastronomique en France. Bon, qui est donc, c'est une spécialité, enfin le livre est notamment une monographie donc, sur un journalisme spécialisé, et sur un journalisme spécialisé qui a la particularité de s'être développé assez fortement, alors sans doute sur une période assez large, bon, le livre remonte à peu près à... Enfin, aux décennies d'après-guerre, bon, et en tout cas, il s'est développé, il a connu une phase de développement particulièrement notable depuis les années 90, enfin, sur donc ces toutes dernières décennies. Donc, bon, je vais y revenir, mais donc le journalisme gastronomique, ce que ça recouvre, bon, ça va de la publication de recettes de cuisine, du journalisme de cuisine, à la critique gastronomique de restaurants. Alors le livre se compose de 6 chapitres et je vais essayer, bon, sans être trop long, bon, d'évoquer chacun de ces chapitres. Bon, sachant qu'il y a une petite difficulté, c'est que le livre est, bon, il est très riche et bon, il développe enfin, des analyses qui sont enfin, très nuancées, bon, et que comme je vais devoir condenser forcément, je vais... être infidèle à une partie du livre parce que je ne pourrais pas restituer bon, les précisions qu'il faudrait apporter. Mais bon, mon objectif est juste de donner un aperçu bon, de ce qu'il y a dans ces chapitres. Alors le premier chapitre, je ne crois pas qu'il soit présenté comme tel, mais moi je l'ai un peu lu en tout cas, ou a posteriori, c'est un peu une sorte de prologue enfin, d'entrée dans le livre. Qui introduit quelques-uns des grands thèmes bon, qui sont développés dans les chapitres suivants et qu'il fait au moyen d'une analyse du magazine Cuisine et Vins de France et de ses transformations successives. Alors, c'est un magazine qui date des années 20. Bon, la période l'entre-deux-guerres et de l'après-guerre est évoqué. Bon, je vais certainement beaucoup simplifier, mais bon, c'est un magazine à ce moment-là dont la cible principale c'est des femmes conçues comme cuisinières. La rédaction est principalement enfin composée d'amateurs. D'amateurs, bon, qui ne sont pas journalistes à titre principal, et le journal assure bon, une sorte de liaison entre le monde gastronomique que constituent les associations gourmandes et les confréries, et le public profane. Voilà. Alors, chapitre mentionne qu'une première rupture intervient dans un premier changement, en tout cas dans les années 70, donc la ligne traditionnelle du magazine apparaît un peu décalée par rapport aux changements qui se produisent, bon, notamment au public féminin et à son rapport à la cuisine. Et du côté de ceux qui font le journal, bon, il y a une première professionnalisation dans le sens de le magazine est davantage le fait de journalistes, bon, ce qui implique aussi des changements dans le style d'écriture qui se fait moins normatif, plus impersonnel. Il n'y a plus l'usage la vocation de la subjectivité de l'amateur chroniqueur. Moment de rupture plus important encore, c'est le 1981, ce qui correspond à un changement d'équipe. On a une sorte d'intensification, du processus de journalistification. Le journal est notamment, le magazine est repris par quelqu'un qui vient de la presse et pas spécialement du journalisme gastronomique. Et le magazine en vient à se situer sur un créneau plus haut de gamme. Il vise davantage les hommes. Il traite davantage la cuisine comme l'expression qu'utilise aussi Denis Nolin, celle d'une culture cultivée. La cuisine est traitée comme une culture cultivée. Une visibilité plus grande est donnée aux grands chefs. Cette période ne dure pas. Ça n'est que l'un des facteurs, mais bon, qu'apparemment le marché n'est pas suffisant, des amateurs de gastronomie pour assurer la viabilité du titre. Et surtout, bon, dans les années, au début des années 90, le magazine doit faire face à la concurrence de nouveaux titres, en particulier les titres du groupe Prisma. Bon, dans ce secteur comme ailleurs, le groupe Prisma crée des titres et Cuisine et Vins de France va réagir à cette concurrence en adoptant un certain nombre de traits des magazines du groupe Prisma et en opérant alors un retour partiel à certains de ces traits traditionnels. Le public privilégié redevient un public majoritairement féminin. Il y a un retour des recettes, de ce que vous appelez des poncifs de la presse de cuisine. Mais alors, ce n'est pas tout à fait non plus un retour en arrière. Enfin, si c'est un exact retour en arrière. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une chose qui se prolonge, c'est le fait que le magazine est le fait de journalistes professionnels. Par ailleurs, bon, évidemment, le magazine compose et se transforme aussi avec les transformations du monde journalistique, du monde médiatique. Un signe parmi d'autres, il s'engage dans des parrainages avec des chaînes de radio ou des émissions de télévision. Voilà, ça c'est le premier chapitre donc, qui introduit, un certain nombre de thèmes qui sont approfondis dans des chapitres suivants. Alors, le deuxième chapitre est centré sur les transformations de la presse culinaire, gastronomique, depuis les années 80. Alors là encore, je fais une sélection sans doute contestable. Un phénomène important, c'est comme sur d'autres segments de la presse magazine, on a une multiplication des titres dans le domaine dans le secteur de la presse de cuisine et de la presse gastronomique, multiplication de titres. Alors ces titres sont pour certains durables, mais pour beaucoup aussi éphémères. Ne durent que quelques numéros. Cette multiplication des titres notamment imputée aux rôles croissants qui sont joués par de grands groupes de presse internationaux, comme une stratégie notamment pour maximiser leurs recettes publicitaires de diversification de leur portefeuille de titres, comme on dit, et donc qui essaient d'avoir des titres très variés couvrant des cibles publicitaires et donc des lectorats très variés. Alors, cela dit, bon, Sidonie Nolin insiste sur le fait que les titres créés, qui sont très nombreux, sont aussi, pour un nombre non négligeable, enfin, le fait de petits groupes, enfin, qui ne sont pas des grands groupes internationaux, qui sont des sociétés beaucoup plus modestes, ce qui souvent s'adresse à des publics un peu plus bas socialement, et qui, pour un certain nombre, enfin des titres en tout cas édités par ces groupes plus modestes, bon, sont des titres où la part du rédactionnel est assez minimale. Enfin. Alors, il me semble qu'un apport important du chapitre, c'est de documenter sur des points précis les différences que présente ou que tend à présenter le travail journalistique selon qui s'effectue dans un titre dépendant d'un grand groupe ou dans un titre édité par une société de taille plus petite. Alors, je vais beaucoup simplifier. Dans le premier cas, très souvent, c'est les grands groupes, évidemment, qui ont les moyens de recourir au marketing. Il y a une proximité, disons, des services gestionnaires et de la rédaction, et des formes d'ingérence des services gestionnaires dans la rédaction. Dans ces grands groupes, on a une division du travail qui, dans certains cas, peut être très poussée, ce qui est quelque chose que ne peuvent pas se permettre économiquement des éditeurs de plus petite taille. Et on a une illustration de ces idées, une illustration très concrète et je trouve très parlante sur l'exemple de la publication des recettes. Il est montré, alors là encore je simplifie beaucoup, mais que il y a un peu deux pôles, de manière dont ces recettes sont faites, dont ces articles de recettes sont faits. Dans les grands groupes qui ont beaucoup de moyens, une formule souvent utilisée, c'est la fabrication de l'article de recette par un trio. C'est une division du travail forte. On a un auteur pour la recette, un auteur culinaire. On a un styliste qui intervient et on a un photographe professionnel qui intervient. Alors que dans des plus petites sociétés, on a quelque chose de beaucoup plus... avec une division du travail nettement moindre, une spécialisation bien moindre et un côté amateur beaucoup plus important, les recettes pouvant, dans certains cas, être presque déléguées à des cuisinières amateurs, assez peu rémunérées, en tout cas beaucoup moins que les professionnels des grands groupes. Il y a plein de choses très précises qui sont... je trouve très parlante, sur aussi l'utilisation des recettes, est-ce que les recettes sont libres de droit ou non, etc. Un autre aspect de l'opposition entre les deux grands types de configurations, qui est développé assez longuement dans le chapitre, c'est l'opposition entre ce que Sidonie Nolin appelle une stratégie de titre d'un côté et une stratégie de coût, au sens de coût journalistique de l'autre. Je dis rapidement ce dont il s'agit. L'idée, c'est l'intérêt que les différents types d'éditeurs peuvent avoir à la pérennité des titres. Dans les grands groupes, il y a plusieurs facteurs qui vont dans le sens de la pérennité des titres. Il y a d'abord le fait que les rédacteurs, il y a des responsables de titres qui, simplement pour conserver leur poste, ont intérêt à la pérennité du titre. C'est une première chose. Il y a l'économie même, et l'exemple des recettes, si j'étais entré dans le détail, ça serait apparu, montre que ces titres, c'est une économie, un travail journalistique et beaucoup plus, qui s'inscrit dans une temporalité beaucoup plus longue, et donc il y a un coût économique à arrêter trop rapidement un titre. Il y a aussi une question de fidélisation du lectorat, qui est aussi une cible publicitaire. Il y a des facteurs comme ça qui font que il y a sans doute les grands groupes ont plus d'intérêt à pérenniser leurs titres, là où les petits éditeurs ont peut-être plus intérêt, à, quelquefois en tout cas, à avoir une stratégie du coup, c'est-à-dire à utiliser, à fonder un titre de façon assez éphémère sur une mode ou sur un créneau porteur un temps et puis à l'abandonner très vite sans que ça leur coûte énormément quand le titre ne s'avère plus rentable. Voilà. Alors j'ai beaucoup simplifié, une bonne partie du chapitre aussi qu'on souligne bon, que c'est... ces oppositions, enfin, ce, bon, voilà, appel plein. Il y a par exemple des titres pérennes chez de petits éditeurs, bon, etc. Enfin, voilà. Bon, mais j'ai essayé de rendre compte rapidement de ce qui m'a semblé être l'esprit général du chapitre, qui se termine sur une analogie avec une analyse une comparaison avec le marché de la bière aux États-Unis. Et qui avance cette idée enfin, qu'on a au fond une structure un peu du même type avec des grands groupes et des plus petits producteurs, mais qu'une différence, bon, c'est qu'on n'a pas la structure chiasmatique en quelque sorte, enfin, que les petits producteurs dans le marché de la presse de cuisine et de la presse gastronomique ne sont pas les plus créatifs. Les petits éditeurs indépendants ne sont pas. Voilà. Alors, le chapitre 3, lui, porte sur les blogs de cuisine qui se sont développés à partir de 2000-2005, à partir de la première moitié des années 2000. Il s'appuie sur une enquête à la fois par questionnaire et par entretien, qui conduit à montrer que contre des idées peut-être un petit peu reçues, bon, les blogueurs ne peuvent pas être décrits comme de simples amateurs qui... voilà, autant d'Internet simplement se déplacerait sur Internet et ne peuvent pas non plus être envisagés simplement, en tout cas, comme de véritables ou comme de systématiques concurrents au journalisme. Bon, c'est une problématique qui a été beaucoup soulevée, compris par des journalistes, de la concurrence que Internet pouvait offrir aux médias. Alors, les résultats de l'enquête, enfin, sont assez intéressants parce que c'est un thème sur lequel il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, mais pas toujours avec des données empiriques très abondantes. Bon, et je trouve que l'un des intérêts du chapitre, enfin, c'est dans tous les petits apports comme ça, enfin, de l'enquête sur qui tient des blogs de cuisine, pourquoi, dans quelles circonstances. Alors bon, je donne quelques points. Bon, un point sur lequel Sidonie Nolin insiste, bon, c'est que il y a des points communs entre la population des, je sais pas comment on dit, tenanciers ou des teneurs, je sais pas, enfin des gens qui tiennent, des auteurs de blogs d'un côté et des journalistes gastronomiques de l'autre. On a dans les deux cas des populations plutôt féminines. On a, y compris du côté des gens qui tiennent des blogs, une population qui est plutôt diplômée. Le principal facteur la principale différence sur laquelle vous insistez, c'est plus que les gens qui tiennent des blogs sont quand même d'un recrutement sous un rapport géographique, mais aussi social, enfin plus diversifié quand même que les journalistes. Les blogs apparaissent souvent ouverts à la faveur d'une période de transition dans la vie professionnelle, mais les gens qui les tiennent continuent assez souvent, en tout cas, de les tenir au-delà, enfin, même quand ils ont repris une activité professionnelle normale. Enfin, bon. Un point sur lequel vous insistez aussi beaucoup, c'est que souvent, enfin, la tenue du blog, le blog évolue, enfin, à mesure que qu'il dure, et que le fait de tenir un blog tend à renforcer la créativité culinaire, enfin, dans le contenu du blog. Et aussi, c'est un phénomène, vous insistez sur le fait qu'il y a une sorte d'intégration progressive et qui tend à être plus forte avec le temps à ce que vous appelez la blogosphère. Enfin, il y a ils écrivent, enfin, peut-être que je simplifie un peu, mais il y a une tendance, disons, à écrire de plus en plus pour les autres, pour d'autres blogueurs, pour de voilà. Bon, et vous consacrez plusieurs pages, enfin, à ce côté, cet effet de clôture un petit peu qui se repère sur les blogs, cette propension à écrire pour d'autres auteurs de blogs, bon, etc. Ou à écrire, en tout cas, en ayant en tête les d'autres auteurs de blogs. Un point qui est... Oui, un point qui est abordé dans le chapitre, bon, est la question du rapport entre ce monde des blogs de cuisine et le monde des médias traditionnels. Il me semble que l'idée principale, bon, est que une intersection existe entre ces deux univers, que la presse, les médias traditionnels sont mis quelquefois, en tout cas, à faire appel à des auteurs de blogs. Il y a des transferts, il y a des échanges entre ces deux mondes. Néanmoins, bon, ces échanges restent assez limités. Alors ces échanges, bon, globalement, on est quand même en présence de deux mondes qui, même s'il y a une intersection, restent quand même assez distincts. C'est l'idée, en tout cas, que j'ai retenue à la fin du chapitre. Mais ce que vous analysez aussi, c'est que bon, les blogueurs, malgré tout, sont des prescripteurs, ou en tout cas un pouvoir de prescripteur leur est prêté. Donc ils suscitent l'intérêt de marques. Il y a des partenariats qui peuvent démarcher des blogueurs pour nouer des opérations de partenariat. Et en fait, les blogueurs se trouvent confrontés à des par rapport aux marques, enfin des problèmes, des dilemmes assez comparables au fond à ceux des médias traditionnels, même s'ils se posent de manière différente, bon, parce qu'évidemment les enjeux économiques sont quand même pas du tout les mêmes, et puis aussi qu'on est en présence d'un univers qui est dérégulé, enfin les règles même minimales qui existent dans le cas des médias traditionnels. Alors le chapitre 4, j'accélère un tout petit peu, traite de la profession de journaliste gastronomique. Il revient, mais de façon plus générale, bon, sur le phénomène que déjà le premier chapitre mettait bien en exergue, du passage d'un journalisme, d'une époque où ce type de journalisme était assuré essentiellement par des amateurs qui exerçaient des fonctions journalistiques de façon complémentaire, accessoire, enfin, à un moment où cette presse est essentiellement le fait de journalistes professionnels, c'était de journalistes de formation et de journalistes de formation dont la spécialisation dans la gastronomie est assez souvent apparemment presque un peu accidentelle. Alors elle répond dans un certain nombre de cas quand même à un intérêt personnel pour la gastronomie qui a pu se matérialiser dans un premier temps de la carrière par exemple par des collaborations à des guides gastronomiques, mais c'est cet intérêt pour la gastronomie n'est pas une condition, enfin l'exercice de la spécialité, notamment dans les jeunes générations. Bon, et vous revenez sur le fait que les jeunes générations arrivent sur un marché du travail qui est très encombré et parfois le choix de la spécialisation de la gastronomie semble être c'est une opportunité qui est saisie et pas tellement une vocation ou un... Le chapitre propose des développements approfondis sur la question de la compétence de cette spécialisation journalistique. Cette compétence apparaît avoir deux visages. Bon, une compétence littéraire d'un côté. On est souvent en présence de journalistes qui sont passés par un moment de leur cursus d'enseignement supérieur par des filières littéraires. Cette compétence littéraire est importante aussi pour démarquer les journalistes des rédacteurs de guides. Et puis, d'un autre côté, il y a une compétence gastronomique, alors qui, elle, est beaucoup plus faiblement formalisée, qui s'acquiert plutôt sur le tas, quelquefois auprès d'une forme de compagnonnage auprès d'un journaliste plus âgé, quelquefois simplement sur le tas à proprement parler, par l'expérience, en force de... Et bon, il y a, enfin, des réflexions qui est développée sur, pour essayer de caractériser cette compétence gastronomique. Bon, et l'une des idées, enfin, il me semble, sur laquelle vous insistez, c'est que cette compétence n'est pas du même type, c'est pas une, une compétence technique comme celle des chefs. Bon, c'est plus ce que vous appelez une compétence qui a une forme de, qui prend la forme de la connaissance empirique du goût. Bon, et qui, par là, les journalistes sont plus près, enfin, de leurs lecteurs que des chefs. Et puis, autre question développée dans ce chapitre, c'est la question de l'identité professionnelle de ces journalistes spécialisés. Vous soulignez l'incertitude qui l'entoure. Il y a un passage intéressant sur, bon, la manière dont ils, enfin la difficulté qu'ils ont en quelque sorte à se nommer, le terme chroniqueur fait un peu vieilli aujourd'hui, bon, est quelque chose que les jeunes générations bon, n'acceptent pas très bien. Le terme de critique est pas non plus, pose aussi d'autres difficultés. Et finalement, c'est peut-être le terme de journaliste, enfin, qui, dans lequel ils se reconnaissent le plus, de sorte que bon, la spécialité, enfin, tend à se définir comme une sorte d'exportation, enfin, d'application au domaine de la gastronomie, de principes, de types d'enquête, d'écriture, qui sont celles du journalisme en général. Voilà. Alors, cette question, enfin, oui, j'aurais peut-être dû le dire un petit peu avant. Bon, vous écartez beaucoup l'image qu'on peut avoir effectivement en tête, que le journaliste gastronomique, c'est un bon vivant qui aime beaucoup la gastronomie. Voilà. Bon, en tout cas, que ce n'est pas du tout dans cette image-là que les journalistes gastronomiques se reconnaissent majoritairement aujourd'hui. Bon, voilà. Il y a un minimum de valeurs journalistiques qui sont mises en avant. L'idée que le journaliste gastronomique puisse en quelque sorte s'embourgeoiser, enfin prendre un peu trop goût au bon repas et perdre sa vigilance critique, journalistique et voilà, et critiquer, et bon, c'est une routinisation, voilà, enfin le bon journaliste gastronomique est censé rester un bon journaliste avant tout et donc toujours avoir une curiosité en éveil, bon, etc. Alors, bon, il y a un point intéressant, c'est aussi la question, les questions un peu de déontologie, enfin de morale professionnelle, bon, dans cette spécialité, notamment par rapport aux visites de restaurants, avec deux positions, une qui, dites-vous, l'emporte, enfin bon, c'est cohérent, tend à l'emporter dans les jeunes générations, bon, qui est l'idée que le journaliste doit payer ses repas quand il va, quand il se rend dans des restaurants et doit les tester de façon anonyme, donc ne pas, il y va en client anonyme, en payant comme un client ordinaire. Et puis l'autre position qui est de se présenter comme journaliste, bon, alors il y a plusieurs façons de le faire, bon, qui peut, enfin, il existe en tout cas des moyens pour que le repas du coup ne soit pas à la charge du, ou en tout cas pas en totalité, à la charge du journaliste ou de son entreprise de presse, dans ce cas des voilà. Et donc il y a ces deux positions en quelque sorte polaires, bon, avec donc la première position tente à l'emporter aujourd'hui, mais bon, voilà, il y a des arguments aussi pragmatiques en quelque sorte qui sont avancés à l'appui de la deuxième position dans l'ordre où je les ai mentionnés. Vous mentionnez que dans cette spécialité, alors ses contours restent flous, bon, ça c'est quelque chose d'important, je crois, j'en dirai un mot, que souvent, enfin, l'activité en fait est rarement exercée à plein temps, que beaucoup de journalistes gastronomiques collaborent simultanément à des guides gastronomiques, donc ont des activités extra-journalistiques, font aussi des ménages. Enfin, ça a l'air assez fréquent, ce qu'on appelle des ménages. Et puis, il y a aussi un passage sur le prestige assez faible, enfin, de cette spécialité dans les rédactions. Bon, vous mentionnez que souvent, elle vient à la fin des titres, plutôt à la fin des titres dans les titres généralistes, dans les titres de presse. Et il y a un passage aussi très intéressant sur l'image un peu dégradée que les journalistes gastronomiques eux-mêmes ont de leur propre spécialité. Alors, le chapitre 5, qui traite du travail, là, il se focalise davantage sur le travail des journalistes gastronomiques, et dans le cas particulièrement de l'évaluation des restaurants. La mythologie professionnelle valorise l'idée que, bon, dans le cas du journaliste gastronomique, on aura un journaliste solitaire qui mène des investigations personnelles et qui découvre des établissements. bon, vous montrer que ce cas de figure, en fait, bon, il existe, mais qu'il est en fait assez rare, que dans les faits, la presse écrite généraliste tend à parler à peu près des mêmes restaurants. Alors il y a des petites différences selon les titres, mais qui peuvent concerner le choix des restaurants, mais surtout enfin, la manière d'en parler, les critères qui sont mis en avant. Voilà, globalement, on a une assez forte uniformité. Et bon, vous saisissez cette uniformité pour dire, pour souligner enfin, le caractère en fait, collectif contre la mythologie du journaliste solitaire, bon, du travail journalistique en la matière. Alors, ce caractère collectif, il tient à quoi ? Bon, il tient au fait d'abord qu'on est en présence d'un groupe de journalistes qui se lisent les uns les autres, qui se reprennent en partie les uns les autres, qui se fréquentent les uns les autres. Bon, il y a des passages très concrètement, enfin, sur les lieux, les déjeuners de presse en particulier, où bon, il y a une existence physique enfin, du groupe ou d'une partie du groupe. Donc, le travail journalistique répond à des choix collectifs parce que c'est le produit d'un groupe. Bon, et c'est aussi le produit des interactions des journalistes avec les chefs qui peuvent, qui donnent des informations, que les journalistes peuvent utiliser pour choisir des restaurants, des sujets. Bon. Et puis aussi, des interactions avec les attachés de presse, bon, qui sont des professionnels, enfin, particulièrement important, bon, auquel est consacrée enfin, une partie du chapitre. Je dis juste sur les chefs, il y a un passage enfin, sur les problèmes, là encore, de morale professionnelle qui sont posés. Est-ce qu'il faut être proche des chefs ? Alors oui, les chefs, c'est des sources d'informations très, très importantes. Et en même temps, il ne faut pas en être trop proche, parce que si on en est trop proche, on paraît trop proche de l'une de ces sources et de l'un des acteurs du domaine qu'on couvre, donc on est plus neutre, bon, etc. Et, ce qui est le plus développé, c'est en quelque sorte l'économie assez compliquée, enfin des échanges entre les attachés de presse que les restaurateurs qui en ont les moyens, dont les restaurateurs qui en ont les moyens s'offrent les services, donc d'un côté les attachés de presse, hein, et de l'autre les journalistes gastronomiques, et donc vous analysez enfin, l'économie des échanges entre attachés de presse et journalistes. Bon, les journalistes trouvent un intérêt à collaborer avec les attachés de presse. Bon, vous en mentionnez, d'abord c'est une source d'économie de temps, bon, ce qui est précieux dans un moment où bon, les journalistes doivent intensifier leur rythme de travail pour plein de raisons. Il y a aussi des avantages, bon, vous mentionnez par exemple que par les attachés de presse, c'est un moyen d'avoir du travail pour des dossiers de presse, par exemple, que beaucoup de journalistes rédigent des dossiers de presse et que donc ben, c'est en fréquentant des attachés de presse que voilà. C'est une façon de faire le travail plus vite. Il y a aussi des avantages économiques pour les journalistes et pour leur rédaction, c'est que les visites de restaurants en compagnie d'un attaché de presse permettent de ne pas payer le repas. Mais évidemment, en même temps, la collaboration avec les attachés de presse a son prix. Ben, c'est une relation de dépendance. Bon, quand le repas est... D'abord, d'après ce que j'ai compris, très souvent, l'attaché de presse accompagne le journaliste lors du repas, bon, évidemment, essaie de cadrer, de peser sur le cadrage de son article. Le journaliste est redevable du prix du repas, du temps aussi que l'attaché de presse lui consacre. Ce qui fait qu'il y a toutes sortes de. Enfin, il y a des règles tacites dont vous parlez, bon, qui fait que quand un journaliste visite, goûte dans un restaurant avec un attaché de presse, bon, il y a des choses, il ne peut pas faire un papier totalement négatif juste après, ou s'il pense qu'il y a des règles qui font qu'il doit euphémiser en quelque sorte ses critiques. Voilà. Donc une partie du chapitre importante est consacrée à l'analyse de ces relations. Et puis le dernier chapitre, il porte sur les journalistes gastronomiques qui sont crédités d'un important pouvoir prescripteur et la question qui est au centre du chapitre, c'est comment ces journalistes ont construit leur renommée. Il y a d'abord des considérations un petit peu générales au début du chapitre, générales au sens où le chapitre est principalement construit sur trois études de cas, donc je dis général au sens où ça vaut au-delà de ces cas. Comment se faire un nom dans cette, en fait, c'est la question qui est posée. Comment se faire un nom dans cette spécialité? Alors, vous mentionnez plusieurs moyens. Bon, il y a, de faire des coups, de soulever, de faire un article qui est remarqué. On découvre un établissement, on soulève un sujet qui est rarement soulevé. Bon, voilà, il y a les coups, il y a la rédaction de livres qui, là où l'important n'est pas tellement qu'ils se vendent, mais qu'ils fassent parler de leurs auteurs dans les médias. Il y a la tenue de blog aujourd'hui, il y a un intérêt en début de carrière, j'ai l'impression, la pluriactivité aussi, qui est un moyen de se faire connaître dans plusieurs lieux, etc. Mais vous montrez qu'à partir d'un certain stade, il y a un intérêt à concentrer au contraire son activité sur un seul média, et il vaut mieux sur un média qui accepte de mettre un peu d'argent dans la chronique gastronomique et donc de donner les moyens de faire un travail dans ce titre. Et il y a intérêt à concentrer sur un média parce que, et vous développez une analyse qui est intéressante là-dessus, sur le lien qu'il y a entre se faire un nom, c'est la personne du journaliste, mais le nom qu'il se fait n'est jamais indépendant, évidemment, de la renommée, du capital symbolique, du média pour lequel il travaille. Alors, là, j'ai parlé de trois études de cas. La première est consacrée à l'exemple de Go et Millau, qui ont opéré dans les années 60 et 70 parler de révolution, une forme de révolution dans le domaine, qui reste sans véritablement équivalent à ce jour et qui a impliqué une remise en cause partielle, vous insistez beaucoup sur ce caractère partiel, des critères et des hiérarchies traditionnelles. Je vais très très vite vous montrer comment ils ont notamment mobilisé des pratiques importées d'autres domaines journalistiques pour opérer cette révolution. Et comment ils se sont, comment le succès de leur révolution repose sur le fait qu'ils sont à la fois, alors ils ont appuyé, en un sens, ont aussi théorisé des transformations qui se produisaient à l'époque, transformations du système des goûts qui ont porté la nouvelle cuisine qu'ils valorisaient. La révolution qu'ils ont faite a marqué les générations suivantes, même si, donc, comme je l'ai dit, elle reste sans équivalent dans ces dernières générations. Et c'est la deuxième étude de cas que vous proposez. Vous faites une analyse de François Simon, donc journaliste passé, comme beaucoup de gens de sa génération, d'après ce que j'ai compris, par l'une des entreprises, des sous-entreprises Go et Millau, le magazine en l'occurrence, avant d'accéder à une notoriété plus large dans les années 80 et 90 par ses collaborations au Figaroscope, dont il est, je crois, l'un des fondateurs, et puis plus tard par des émissions à Paris Première. Il est parvenu à se distinguer dans la profession par son style, à la fois littéraire et vindicatif, et par sa tentative, parfois un peu mise en scène, je ne sais plus si c'est une citation de lui ou de vous que je donne, mais de pratiquer la critique gastronomique le plus déontologiquement possible. Et puis le chapitre se termine par une double étude, donc c'est la troisième étude de cas, consacrée au mouvement du fooding et au mouvement omnivore qui se sont développés dans les années 2000. Alors, vous mentionnez plusieurs points communs et plusieurs différences. Il me semble qu'un point important, c'est une différence, c'est le fait que c'est le recours à l'événementiel par cette génération de journalistes qui arrivent dans un état différent du monde des médias et qui, pour notamment se faire connaître et promouvoir leurs innovations journalistiques, ont recours à la création d'événements. Création d'événements auxquels, qui posent aussi la question du sponsoring des marques, parce que, est-ce que ces événements sont souvent, en tout cas, sponsorisés par des marques, on voit les problèmes que ça peut poser. Pardon, excusez-moi. Je peux prendre 10 minutes encore ou...
Je sais plus, c'est qui qui contrôle le temps?
Il n'y a pas de maître du temps.
Il n'y a pas de maître du temps, parce que comme je vais moi-même devoir être content, je pense que si c'est moi qui le contrôle, c'est mal placé. Mais bon,
10 minutes, mais je fais vraiment pas plus. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Il y a une enquête empirique qui est très très riche. Je trouve qu'il y a énormément tout au cours des six chapitres, donc des analyses qui sont vraiment très très intéressantes. Alors, Bon, je pense que le livre ne se lit pas uniquement comme ça. Moi, je l'ai en partie lu comme une monographie sur un journalisme spécialisé. Bon, et c'est... le livre, il y avait eu, à partir de la fin des années 90, une série de travaux qui avaient été faits sur des journalistes spécialisés. Il me semble que ce type de travaux, c'était un petit peu ralenti. Et je trouve que votre travail est à la fois intéressant parce qu'évidemment, il apporte un nouveau cas de figure. Enfin, il propose un nouveau cas de figure. Bon, il se prête au jeu des points communs, différences, etc. Et en même temps, comme il intervient un peu plus tard, il conduit à prendre en compte toutes les un certain nombre de transformations qui se sont produites entre-temps, avec Internet, avec les transformations sur le marché du travail, etc. Alors, le livre est on peut le lire comme ça. Il n'est pas seulement ça, il se situe aussi sur le terrain de la sociologie économique et de l'analyse des dispositifs d'intermédiation marchande. Je pense, je le dis très vite, je trouve que c'est le livre, il me semble, joue un peu sur les deux ces deux problématiques en quelque sorte, ça a des vrais avantages à mon sens. Pour le dire très vite, je trouve qu'il n'a pas. Il y a en quelque sorte. Enfin, il y a deux problématiques qui sont liées l'une à l'autre, mais il n'y a pas une problématique un peu trop rigide ou trop écrasante. Et les chapitres presque sont un petit peu. Je savais que ça serait difficile à dire, mais en plus en étant contraint, c'est encore plus difficile à dire. Mais bon, je trouve que les chapitres, on peut presque les lire comme des chapitres un peu autonomes les uns par rapport aux autres. Il n'y a pas une ligne générale trop forte. Et je trouve que du coup, ça, pour un intérêt, c'est que ça vous permet de faire quelque chose qui je crois, important de faire, mais qui n'est pas si évidente que ça à faire quand on travaille. Parce qu'on est en présence, vous arrivez à montrer en même temps, si vous aviez fait quelque chose vraiment trop centré sur le journalisme gastronomique, assez vite, vous auriez eu le problème que le journalisme, ce que vous appelez, d'abord, il se laisse mal définir. Vous le dites dès les premières pages, rien que la gastronomie, la notion n'est pas simple. Il y a des problèmes pour nommer ce dont vous parlez. Est-ce qu'on doit parler de journalisme gastronomique, journalisme culinaire, de cuisine? Il y a des bons. Est-ce que les recettes, c'est toujours du journalisme? Il y a un problème déjà pour nommer, il y a un problème pour circonscrire où il s'arrête. Alors avec les blogs, c'est encore plus compliqué, mais il y a une telle hétérogénéité entre la recette publiée dans un magasin et la critique d'un grand restaurant. On a quelque chose de très hétérogène, on a quelque chose qui se laisse... qui est difficile à nommer, etc. Je crois que c'est un trait... Enfin, en tout cas, qui n'est pas propre à cette spécialité journalistique, qui est quelque chose de fréquent. Et le livre, je trouve, arrive à rendre cette dimension-là de cette spécialité journalistique. Et vous allez même, il y a même des phrases qui seraient très paradoxales dans un autre cadre, où il y a un moment où vous dites, en un sens, le journalisme gastronomique n'existe pas. Quand vous êtes dans le chapitre sur l'identité professionnelle des journalistes. Et cette espèce de double problématique, le mot n'est pas juste, mais je trouve, permet aussi d'affronter une difficulté que... il me semble, souvent, l'étude du journalisme, on est en présence d'un objet à la fois qu'on est tenté d'étudier pour lui-même, donc une forme d'autonomie, mais en même temps qu'on ne peut pas couper du tout de ses relations avec les autres, d'autres univers sociaux. Ça n'a aucun sens, évidemment, d'étudier les transformations du journalisme gastronomique sans du tout traiter des évolutions dans la gastronomie, dans l'espace social où se recrutent les lecteurs. Le fait que vous ayez la problématique sur le dispositif d'intermédiation vous permet d'être très sensible à ça. Il y a des formules sur que ce journaliste, fondamentalement, assure des relations entre... il y a une trinité à un moment, entre le monde des amateurs, le monde gastronomique et le monde journalistique, peut-être. Alors, pour quelques points de discussion en 5 minutes. Il y a une question, j'ai presque un petit peu... presque tarte à la crème, disons, dans l'état de la sociologie aujourd'hui, mais j'en ai conscience, mais je pense que là, c'est... en tout cas, c'est des questions qu'on a vraiment envie de poser. Il y a la question tout ce qui touche au genre, qui est à la fois qui est un peu continu dans le livre, mais voilà, qui est jamais affronté de façon frontale, disons. Mais voilà, on la rencontre très très souvent. On la rencontre, alors par exemple, vous rappelez, bon, évidemment, l'opposition cuisine domestique, plutôt domaine féminin, contre la cuisine des grands chefs, plutôt masculine. Bon. Cuisine et vin aussi. Bon, la cuisine, c'est les femmes, plutôt les femmes, le vin, les hommes. Vous montrez bien dans le premier chapitre, dans l'évolution de la ligne éditoriale, il y a une question, enfin, la question du positionnement plutôt sur les femmes uniquement, où on essaie d'avoir un public masculin, c'est important. Il y a ce que vous dites oui, sur les blogs, c'est une population qui est majoritairement féminine, des blogueurs et des journalistes gastronomiques. Alors ça va, vous corrigerez. Parce que c'est vrai que quand, par contre, quand on lit les entretiens, on a l'impression d'avoir. Alors pourquoi est-ce que c'est une population qui est quand même très masculine et qui n'est féminine que dans les jeunes générations et des positions peut-être un petit peu subalternes. Bon, mais vous voilà. Mais c'est aussi. Enfin. Est-ce que l'évolution du journalisme gastronomique, qui dit des choses un petit peu plus larges forcément sur l'évolution de la gastronomie, et, enfin sur des évolutions sociales plus larges, voilà, est-ce qu'il dit des choses de, je sais pas, l'évolution, alors il faudrait beaucoup mieux construire ça, bon, c'est des définitions, des rapports sexués, enfin ou, voilà, il me semble que c'est un fil, enfin qu'on peut, voilà. Et puis l'autre question un petit peu tarte à la crème, mais qui je crois s'impose aussi, c'est la question, vous travaillez sur le cas de la France, bon, et évidemment on peut pas s'empêcher de penser, de se dire à un moment, oui mais est-ce que la gastronomie n'a pas une place particulière en France? Ou une forme particulière. Alors, quand vous parlez de compétences littéraires, on y pense aussi parce qu'on dit que c'est une spécificité du journalisme français que cette tradition littéraire. Voilà. Enfin, bon, voilà, une question pourrait être sur. Parce que ces questions nationales, internationales, que vous abordez un tout petit peu, en fait, à la fin du tout dernier chapitre, en mentionnant des phénomènes d'internationalisation. Et c'est une question, alors, bon, peut-être qu'elle sera abordée au sujet du vin. Là, il y a beaucoup plus de. Travaux, est-ce que l'apparition, enfin, est-ce que de prescripteurs internationaux en matière de gastronomie, il me semble qu'il y en a, enfin, est-ce que ça a des effets sur ce journalisme ou non? Voilà. Et puis, tout dernier point, peut-être, j'avais plein d'autres choses à dire, mais un dernier point, peut-être, c'est. Alors, pour le dire. Moi, une image, enfin, un petit peu stéréotypée, peut-être que j'avais en tête, mais qui m'a paru validée par pas mal d'indices que vous dispersez. Bon, la gastronomie est quand même un peu située dans l'espace social. Vous mentionnez, par exemple, à chaque fois, quand vous parlez des amateurs, bon, ils ne sont pas issus de n'importe quelle catégorie professionnelle. Il y a apparemment une surreprésentation des professions libérales et de catégories liées à la direction, enfin, des fonctions de direction dans le secteur privé ou. Quelque chose comme ça. Il y a aussi, c'est quelque chose enfin, qui apparaît peut-être pas assez à la lecture, mais qui, bon, pour vous, doit aller de soi. Il y a des titres, le journaliste gastronomique, il y a des titres où il se développe sans doute plus facilement qu'ailleurs, où il est plus fort qu'ailleurs. Bon, dans les titres qui reviennent souvent, il y a l'Express qui a l'air de jouer un rôle assez important. Il y a le Figaro et ce qui tourne autour. Peut-être, mais ben, ça serait intéressant que vous disiez Le Monde, visiblement, et depuis sa création, mais j'imagine qu'elle n'a pas la même forme. Et pas, voilà, enfin, je pense que ça serait intéressant, peut-être que si vous pouviez développer cette question-là, si, je ne sais pas si elle est très claire sous la forme. Et parce que je me dis que peut-être que dans les évolutions, est-ce qu'il y a une évolution dans le temps par exemple, quelle est l'évolution de la rubrique gastronomie dans un journal comme Le Monde ou dans un journal comme. Même bon, Libération, l'exemple est daté, mais on sait que Libération a eu, dans les années 80, il y avait Julie a eu cette stratégie d'importer la critique, les domaines, la critique bourgeoise, bon, de la critique d'art, etc. Est-ce que c'était le cas ou pas? Voilà, enfin, je pose la question, mais je pense qu'il y a plein de petites questions autour. C'est qu'est-ce qui fait, est-ce que on peut, la critique gastronomique peut être du même type que la critique de domaines qui sont. Un peu autrement situé quand même dans l'espace social, les domaines plus artistiques, ou plus, voilà, la gastronomie, ça reste lié au corps, les plaisirs de la bouche, etc. Bon, voilà. Et voilà, est-ce que l'évolution, bon, je pose la question de façon très très naïve, mais je pense qu'elle peut être peut-être un peu, est-ce que l'évolution du journalisme gastronomique, et notamment ce que vous dites du développement qu'il a connu au cours des dernières décennies, ça dit quelque chose, bon, des transports, enfin, est-ce qu'il y a une évolution de la. Place la gastronomie, enfin dans les pratiques culturelles, voilà, parce que ça dit des choses un peu plus larges.
Merci beaucoup.